Voici une question intéressante. Quand le cœur d'une personne a été touché par le Seigneur, est-ce que la croissance de cette personne est évidente? Demeurez à l'écoute, nous entendrons la réponse que donne la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Votre cœur a-t-il été touché par Dieu? Si c'est le cas, est-ce que les gens remarquent les changements dans votre vie? Les questions suivantes sont-elles vos questions? Par exemple, de quelle manière est-ce qu'on peut marcher avec la force de Christ? Est-ce que des hommes de Dieu ont marché selon la chair? Est-ce que les changements sont visibles quand Christ touche notre cœur? Est-ce qu'on peut voir la croissance d'une personne dont le cœur a été touché par le Seigneur? Est-ce que cette croissance est instantanée? Est-ce que Dieu désire qu'un croyant épouse une croyante? Alors les réponses sont claires quand on les trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le pasteur Régent Joly les a trouvées et il est prêt à nous les donner. Alors demandons à Dieu qu'elles soient bien claires pour nous. Prions. Ô mon Dieu, on voit plein de beaux sujets aujourd'hui, des sujets dans lesquels tu désires nous enseigner. Tu prends plaisir à enseigner ton peuple qu'on connaisse ta volonté et on veut la connaître. Et aide-nous à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Au chapitre 33 du livre de la Genèse, nous poursuivons notre étude de la vie de Jacob. À la dernière émission, nous avons vu le point culminant de la vie spirituelle de Jacob alors qu'il a lutté avec Dieu et obtenu que celui-ci le bénisse. Ce soir-là, près du gué de Jabbok, un homme a lutté avec Jacob. C'est l'homme qui a lutté, et non Jacob, qui ne désire absolument pas une nouvelle bataille. Derrière lui, du côté de Charan, il y a son oncle Laban, alors que son frère, Ésaü, vient au devant de lui avec 400 hommes de l'autre côté. À sa dernière rencontre avec chaque homme, ceux-ci l'avaient menacé. Jacob n'est pas assez puissant pour s'en prendre à un troisième adversaire. C'est l'homme qui a ouvert le combat. Cet homme est une christophanie, une manifestation du Christ avant son incarnation. Remarquez ce que Dieu a fait. Jacob, égal à lui-même, a d'abord refusé de se soumettre. Il connaissait quelques prises, il croyait qu'il vaincrait cet homme. Il a découvert qu'il était incapable de le vaincre, mais il refusait de se soumettre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu aurait pu lui mettre les épaules au sol facilement, mais il n'aurait pu écraser sa volonté. C'est comme l'histoire du jeune garçon que sa mère a puni en le faisant asseoir dans un coin. Elle entendit du bruit et demanda au jeune s'il était toujours assis. Il a répondu oui, mais que dans son cœur, il était debout. Jacob aurait fait la même chose si Dieu l'avait réduit à l'impuissance. Il aurait été debout dans son cœur. Jacob n'était pas prêt à se soumettre à Dieu. Notez ce qu'a fait Dieu. Il l'a rendu infirme en le frappant à l'emboîture de la hanche. Jacob devint impuissant. Cependant, Dieu ne l'a pas cloué au sol. Jacob s'accroche à lui. L'homme lui demande de le laisser aller. Jacob a refusé tant qu'il n'a pas été béni. La résistance est terminée. Jacob s'accroche à Dieu. Maintenant, nous allons voir un homme changer, mais pas instantanément. Les psychologues nous affirment que nos habitudes forment des connexions synoptiques dans notre système nerveux et nous faisons les choses par habitude. Nous sommes des êtres d'habitude et Jacob va retomber dans ses vieilles habitudes à quelques reprises. Cependant, nous percevons déjà des changements, et à la fin de la vie de Jacob, nous verrons qu'il est véritablement un homme de Dieu. Dans le pays de Charan, Jacob a marché en homme charnel. Ici, à Peniel, au gué de Jabbok, il combat contre Dieu, et à partir de ce moment-là, il devient un homme de foi. Cela se voit très bien alors qu'il est en Égypte. Jacob fut premièrement un homme charnel qui luttait. Ensuite, il fut un homme de foi. Cela correspond aussi à ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Paul se convertit et il croyait pouvoir marcher avec ses propres forces. Nous faisons presque tous la même erreur au début de notre vie chrétienne. Nous pensons être assez forts pour marcher dans les voies de Dieu. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Paul a vécu ce problème. Il dit dans Romains chapitre 7, verset 15, et je cite, « Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Paul a découvert qu'il n'y a rien de bon et aucune puissance dans notre ancienne nature. Versets 24 et 25, toujours de Romains 7, Paul s'écrit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Préparez-vous, chers amis, à dire merci au Seigneur quotidiennement. C'est de lui que viendra votre force. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est ainsi avec nous tous. Nous avons notre vieille nature, et elle ne peut plaire à Dieu. Paul a même dit que la chair est inimitié ou ennemie à l'égard de Dieu. Paul a ajouté que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est seulement lorsqu'une personne régénérée se tourne vers Dieu et qu'elle s'y soumet qu'elle peut marcher dans les voies de Dieu. Toutes ces choses furent écrites afin qu'elles nous servent d'exemple. Nous allons suivre Jacob et quelque chose se produit au chapitre 33. C'est à peine si nous reconnaissons Jacob. Nous jurerions que c'est une autre personne. En fait, nous avons devant nous un nouvel homme. Genèse 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Désireux que sa famille soit épargnée, il l'a séparée. Versets 2 et 3. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. J'aurais aimé être là pour prendre la scène en photo. Jacob devait être encore assez loin d'Ésaü lorsqu'il a commencé à se prosterner. Il évite toute apparence d'agressivité, car Ésaü est accompagné de 400 hommes. Jacob ne connaît pas les dispositions du cœur de son frère Ésaü. Est-ce le frère ou un ennemi qui vient à sa rencontre? Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ils sont frères jumeaux, donc oublions le passé. Dieu a dû toucher le cœur d'Ésaü parce qu'il avait juré de se venger et de tuer son frère. Et c'est cela qui avait entraîné son départ. Versets 5 à 8. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Jacob a dû se réjouir pendant un bref moment, parce que sa stratégie pour apaiser Ésaü a fonctionné. Mais elle n'était pas nécessaire. Notez aussi le changement d'attitude chez Ésaü. Verset 9. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Ésaü fait comprendre à Jacob qu'il n'avait pas besoin de tous ses présents, parce qu'il était dans l'abondance. Versets 10 et 11. Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Cette scène est presque drôle. Jusqu'au départ de Jacob, ces deux hommes étaient des rivaux et marchaient dans la chair. Jacob cherchait toujours à dépouiller son frère. Nous voyons Jacob insister afin que son frère accepte le présent et Ésaü répondre que ce n'est pas nécessaire, puisqu'il est dans l'abondance et il n'en a pas vraiment besoin. Jacob continua d'insister. Jacob n'est plus le même homme. Il réagit comme Zachée, un personnage du Nouveau Testament, qui était monté dans un arbre pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur alla dîner chez lui, Zachée fut transformé. Il n'était plus un collecteur d'impôts qui volait les gens, mais un homme déterminé à rembourser au quadruple les gens qu'il avait volés. Le changement était évident. Nous pouvions voir chez qui Jésus était allé dîner. Jacob est différent de l'homme que nous avons connu. Autrefois, il échangea un bol de soupe contre le droit d'aînesse d'Ésaü. Maintenant, il est disposé à donner un présent très cher à son frère sans qu'il y en ait de nécessité. Finalement, après beaucoup d'insistance de la part de Jacob, Ésaü accepta le présent. À cette époque, refuser un présent que l'on insistait pour vous donner était un affront grave. Donc, Ésaü accepta finalement le présent. Verset 12. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Ésaü dit à Jacob que puisqu'il revient au pays, qu'il marchera devant lui pour le guider et le protéger. Verset 13. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » Jacob dit qu'il voyage avec sa famille et ses troupeaux. Il y a des enfants ainsi que des animaux qui allaitent. Jacob dit, « Je ne peux me déplacer rapidement, mais toi et ton armée voudrez sûrement aller plus vite, donc allez et ne nous attendez pas. » Verset 14. « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. » Jacob dit à Ésaü qu'il ne pourra pas le suivre, mais s'il l'autorise, il marchera au pas du troupeau et des enfants. Versets 15 et 16. Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Seir. Seir est dans le pays d'Édom, et c'est là qu'Ésaü s'était installé. Donc, Ésaü retourne chez lui, mais il laisse des hommes pour aider Jacob. Verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Il y a un point, chers amis, que nous pourrions facilement laisser nous échapper, sans y prêter trop d'attention. Jacob a beaucoup changé maintenant. Le stratège de Jacob, qui consistait à donner une partie de son troupeau à Ésaü, n'a pas été utile. Dieu avait préparé le cœur de Laban afin qu'il ne mette pas la main sur Jacob, et Dieu avait préparé le cœur d'Ésaü afin qu'il accueille Jacob. Maintenant, Jacob est en paix avec tous. Ésaü ne désirait pas le cadeau de Jacob, puisqu'il était dans l'abondance. Jacob a insisté afin qu'Ésaü l'accepte. Finalement, Ésaü a accepté le présent, et les deux frères semblaient très sincèrement vouloir se réconcilier. Nous n'avons aucune raison d'en douter. Puisque Ésaü était dans l'abondance et que le droit d'aînesse ne l'intéressait pas, il n'y avait pas aucune raison que les deux frères ne se réconcilient pas. Tout semble aller bien pour Jacob. Laban est apaisé, Ésaü s'est réconcilié avec lui. C'est Dieu qui a disposé tous les cœurs dans cette affaire. si tu avais laissé Jacob à sa cupidité et à ses manipulations, il aurait marché vers une mort violente. Un peu plus tard, lorsque Jacob passera sa vie en revue, il y discernera la main de Dieu et il donnera toute gloire à Dieu. Cependant, l'ivraie a été semée et c'est le temps de la récolte. De nombreux ennuis attendent encore Jacob. Nous avons lu, le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Nous pourrions inscrire un autre verset dans la marge à côté de celui-ci, celui qui se trouve dans Proverbe 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous disons adieu à Ésaü pour le moment. Nous le reverrons aux funérailles de son père Isaac. Il arrive que Jacob soit critiqué pour s'être arrêté à Succoth et ne pas avoir poursuivi sa route jusqu'à Bethel. En fait, il ne faut pas trop nous attendre de Jacob à ce point. Il est maintenant infirme et il en est encore à ses premiers pas de sa marche avec le Seigneur. Jacob a construit un autel à l'Éternel comme Abraham, son grand-père, le faisait. Jacob joint son nouveau nom à celui de Dieu. El Eloé Israël. Dieu, le Dieu d'Israël. C'est vraiment une marque de croissance chez un homme qui vient juste d'être touché par Dieu. Jacob est en route pour Bethel, mais il n'y est pas encore arrivé. Donc, nous le voyons alors qu'il atteint Succoth. Versets 18 à 20. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kézitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Jusqu'ici, Jacob n'avait pas élevé beaucoup d'autels au Dieu de ses pères. Israël témoigne de Dieu. Maintenant, au prochain chapitre, nous allons voir que Jacob a commis une erreur en s'arrêtant à Succoth. Un scandale va se produire dans la famille de Jacob. Dina, la fille que Léa a donnée à Jacob, sera déshonorée par Sichem, le fils de Hamor. Siméon et Lévi, ses frères, se vengeront de cet affront en massacrant toute la population de la ville de Hamor. Ce geste ne peut pas être justifié. C'est un jour sombre dans l'histoire de la famille de Jacob. Cela démontre qu'il n'a pas quitté le pays de Charan trop tôt pour s'éloigner de son oncle et revenir dans le pays de sa naissance. Dieu avait une excellente raison de lui demander de revenir au pays de sa naissance. Deux items intéressent énormément Dieu dans la vie des siens. Nous allons prendre quelques instants pour les examiner. Je les ai déjà mentionnés séparément. Maintenant, considérons-les ensemble. Premièrement, Dieu désire qu'un croyant épouse une croyante et qu'il s'abstienne d'épouser une inconvertie. Cela est très important en ce qui touche la descendance. Dieu se soucie aussi de l'environnement dans lequel vit une personne. Nous voyons cela spécialement dans la vie de Jacob. Il a une grande famille, car en plus des 12 fils, il eut des filles. Seule Dina est mentionnée dans ce chapitre qui nous raconte un triste événement. Nous devons aussi noter qu'il y a des problèmes dans les familles. Il y eut des conflits dans la famille d'Abraham, et il y en eut encore davantage dans la famille d'Isaac. Isaac avait son fils préféré, Ésaü, et Rebecca avait aussi le sien, Jacob. Maintenant, nous allons voir qu'il y a beaucoup de problèmes dans la famille de Jacob, surtout qu'il a plusieurs enfants. Jacob s'est arrêté à Sichem, et il y est demeuré un peu trop longtemps. Cela va lui attirer beaucoup d'ennuis. Nous abordons un chapitre très triste du livre de la Genèse. Il y en aura un autre plus loin, mais dans l'immédiat, nous nous arrêtons à celui-ci. Les événements de ce chapitre ont dû énormément briser le cœur de Jacob. nous devrions l'appeler Israël, puisque c'est le nouveau nom que Dieu lui a donné. Il a construit un autel, ce qui démontre qu'il témoigne du véritable Dieu vivant. Nous voyons que déjà Jacob a commencé à grandir spirituellement. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un chrétien devienne spirituellement mature instantanément. Dieu nous adopte dans sa famille alors que nous sommes des adultes. Nous comprenons les vérités bibliques puisque l'Esprit nous enseigne. Cependant, notre croissance spirituelle est plus lente. Nous apprenons des principes bibliques, mais nous sommes comme Simon-Pierre. Nous allons souvent à la dérive et nous tombons. Cependant, nous devons faire comme l'apôtre Pierre, nous relever et aller de l'avant. Pierre a appris à marcher avec Christ. Il devint même un martyr, tout comme Christ fut crucifié. Nous aussi, nous apprenons lentement à marcher avec Christ et nous croissons dans la maturité spirituelle. Il arrive que des parents soient trop exigeants avec leurs enfants convertis. Ils ne leur laissent pas le temps de grandir. N'exigeons pas trop des autres, mais faisons-le pour nous-mêmes. Nous en sommes exhortés, et assez fortement dans le Nouveau Testament. L'enseignement du Maître, de Jésus lui-même, Matthieu chapitre 7, où nous lisons « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Chers amis, la Bible nous exhorte à veiller sur soi-même. 1 Timothée chapitre 4. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La parole de Dieu nous exhorte à veiller sur nous-mêmes et sur l'enseignement, sur ce que nous partageons avec les autres. 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16. Oui, veillons sur notre croissance spirituelle. L'apôtre Pierre ajoute, dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 6, « À la connaissance rajoute la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 34.
Merci, Régent. Je pense que tout croyant, toute personne qui est née de nouveau, peut se reconnaître dans la personne de Jacob. Il n'a pas changé instantanément, mais il s'est mis graduellement à s'améliorer dans sa marche avec Dieu. C'est merveilleux quand on amène quelqu'un à la connaissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et qu'on voit cette personne se convertir, c'est-à-dire recevoir Christ comme son Sauveur, son Seigneur, puis naître de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle naissance. Donc, la personne est un petit bébé, émerveillé par la présence de Dieu dans sa vie. Elle commence par boire du lait, c'est-à-dire qu'elle commence par apprendre les principes élémentaires de la parole de Dieu. Puis graduellement, elle en vient à prendre de la nourriture solide, c'est-à-dire qu'elle peut maintenant apprendre des choses plus difficiles à comprendre parce que son jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Tel que nous l'explique l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux. Comme on peut le voir parmi les enfants dans la chair, il y en a qui grandissent plus vite que d'autres. Je me souviens d'une jeune femme qui a grandi assez vite spirituellement. C'est une jeune femme qui était directeur chez IBM Et dans cette période-là, j'enseignais le français aux anglophones et l'anglais aux francophones. Et j'avais un contrat chez IBM. J'allais là donner des cours au directeur. Et cette jeune femme s'appelait Kathy. Et son mari était directeur chez IBM, lui aussi. Et je lui parlais du Seigneur, puis elle était très touchée. Puis graduellement, elle est venue à vraiment comprendre le plan de Dieu pour qu'elle soit sauvée. Et un jour, elle a accepté Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Et elle était vraiment née de nouveau, parce que je pouvais la voir grandir à vue d'œil. Elle faisait partie de ceux qui croissent rapidement. Et c'était tellement beau de voir son émerveillement devant la parole de Dieu. À chaque fois que je lui disais une petite chose qui venait de la Bible, elle devenait les yeux tout pétillants, était contente d'apprendre quelque chose de son Sauveur. Et c'était évident qu'elle était en amour avec le Seigneur. Et c'était tellement beau de la voir grandir. Et des fois, les gens viennent, ils acceptent Jésus, mais ils sont plus fragiles, ça prend un peu plus de temps à croître, puis on est porté à s'inquiéter d'eux jusqu'à ce qu'ils soient vraiment capables de marcher. Et dans le cas de Cathy, je me suis jamais inquiétée. Je la voyais grandir à vue d'œil et se fortifier dans le Seigneur. Je voyais qu'elle avait un cœur humble et qu'elle se confiait en Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Elle cherchait, elle ouvrait sa Bible à tous les jours pour voir ce que Dieu voulait lui dire. Et je l'ai vue grandir, et aujourd'hui, c'est une femme affermie dans les voies de Dieu. Une femme qui aime Dieu de tout son cœur, qui a jamais cessé, qui a jamais abandonné ses voies. En tout cas, c'est tellement beau de la voir. Alors, on voit différentes sortes de croissance. Et c'est beau de voir quelqu'un grandir dans les voies de Dieu. Et j'encourage tout chrétien à aller vers les personnes qui ont pas encore la connaissance, et non seulement leur donner le plan de Dieu pour leur salut, mais de faire d'eux des disciples aussi. C'est tellement une joie d'aider quelqu'un à grandir, quelqu'un qui fait ses premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Quelle joie de les voir grandir, s'épanouir devant Dieu et devenir des adorateurs pour Dieu, des personnes qui veulent tout faire pour la gloire de Dieu, qui, à leur tour, se retournent vers les gens qui sont perdus dans le monde et qui vont leur dire quel sauveur merveilleux ils sont. On est vraiment édifiés par la croissance d'un jeune sauvé, par la croissance d'une personne qui vient de se réveiller, de s'éveiller à l'amour de Dieu. C'est comme un petit bébé qui ouvre ses yeux, qui voit sa maman et qui est tout émerveillé, qui voit son papa, qui est tout émerveillé. C'est tellement beau.
Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée « L'heure de la bonne nouvelle » qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée, votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir l'heure de la bonne nouvelle tous les dimanches matins dès 8h sur tout le réseau TQS.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.